Petit beau jour.
La nuit est pleine d'étoiles.
Après la nuit.
Un homme de la nuit, un vrai, un bourlingueur, un tourlourou, un vrai poète et un penseur philosophe.
Et tout d'un coup, il peut y avoir des événements, des rencontres inattendues, des carambolages. C'est tout ça qui fait aussi le monde de la nuit, c'est intéressant.
Là, je crois que les voisins vont avoir une crise de nerfs, Henri. C'était le concerto en une minute pour une porte qui grince. L'émission Après la nuit se poursuit dans les escaliers d'un immeuble parisien dans le 13e arrondissement. Nous suivons en reportage Ludovic Harry qui cavale sous la vitesse de ses jambes frivoles. Nouvelle émission. Suspense, suspense. Nous voici arrivés au rez-de-chaussée.
On se croirait en. Je sais pas, en janvier.
À droite.
Voilà, le reportage commence. On sait pas comment ça va se terminer, mais ça commence. Nous sommes dans la rue, dans le 13e arrondissement. Un petit vent frais, voilà. Il est 21h40 à la montre en ce moment même. Nous sommes dans un restaurant. Un restaurant dans le 13e arrondissement. On discutait justement avec ce fond musical qui d'entrée nous envahit. On en était venu à discuter de cette musique en permanence dans les lieux publics.
Bah, en fait, c'est assez particulier ici. C'est pas un endroit où on a un type de musique standardisé comme on peut entendre par exemple dans les halls de gare. Où on entend des chansons pop-rock des années entre les années 70 jusqu'à maintenant, ou alors dans d'autres lieux des musiques un peu plus modernes. On a des endroits où on peut toucher une population de type adolescent ou jeune adulte, hein, avec des musiques plus sophistiquées au niveau de l'électronique.
Dans les magasins de vêtements à la mode, par exemple.
Ouais. Je pense que c'est des musiques qui sont prédigérées en fait, qui suscitent un désir simplement pour le consommateur, qui suscite un désir et qui suscite aussi un ressentiment d'adhésion à une communauté pour le consommateur en fait. Le consommateur se sent chez lui. C'est une idée que je me fais, une interprétation. Mais ici c'est assez curieux en fait. On est dans un lieu où on a, c'est à peu près le troisième morceau qu'on entend, et c'est sur un style très blues.
Ludovic ?
Non, mais je pense que t'as dit l'essentiel. Hein.
Non, Ludovic mange.
Il en profite.
toute façon, il faut quand même. Quand on sait qu'Higelin a été viré de sa maison de disques il y a plusieurs années, ouais. Un artiste de son envergure, je trouve ça hallucinant, quoi.
Nous sommes toujours dans un restaurant au 13e arrondissement. Et donc là, c'est le moment où on mange avec une musique qui s'est mutée de blues à jazz. Maintenant, on est dans une ambiance un peu jazzy. Alors oui, on discutait notamment avant la pause de la place de plus en plus importante des musiques dans les lieux publics, que ce soit les magasins de vêtements, on en parlait tout à l'heure avec Henri, ou tout simplement les restaurants ou encore les gares.
Non, mais ce qu'on mange, c'est très bon. Non, je trouve que c'est très important de prendre le temps. Le temps de la question et le temps de la réponse. Et souvent, le formatage devient invisible parce qu'il est sous-entendu que dire plus de 4 ou 5 phrases, ça prendrait la tête des auditeurs ou des téléspectateurs. Ce qui souvent est faux, les spectateurs, c'est une manière de penser à leur place. Et les spectateurs, ils sont tout à fait désireux et pertinents pour faire la démarcation entre le pipeau et la pertinence. Voilà.
Et puis même si dans le cas où c'est pénible pour l'auditeur d'avoir 4 ou 5 phrases, la perspective de pouvoir lui rendre cette situation agréable et intéressante est une perspective bénéfique pour lui. En fait, plutôt que, même dans le cas où l'auditeur est paresseux ou bien idiot, paresseux parce qu'il n'a pas envie de donner l'énergie nécessaire à la bonne interprétation de ces 4 ou 5 phrases, et idiot parce que c'est trop en fait, et ben rien n'empêche, même ce serait plutôt honorable de le considérer comme quelqu'un qui peut évoluer vers soit un peu moins de bêtises, soit un peu plus d'action.
Vous savez qui regarde l'émission, les concierges. Mettez-vous ça bien dans la tête, on travaille pour les concierges.
C'est toujours pareil à la télévision, le nivellement par le bas.
Le rôle, en fait, l'idée, c'est quand même, on est dans une société, c'est quand même d'essayer de tirer les choses vers le haut, le progrès, c'est d'améliorer les choses, c'est pas de se mettre au niveau du plus bas pour y rester. Moi, je conçois pas, je vois pas l'intérêt. C'est une société régressive.
Donc Henri, là tu vises entre autres les médias.
Les médias, la politique.
Donc comment on fait passer le message aux gens en fait, sous quelle forme, sous quel format, puisque finalement il y a un formatage de l'information, c'est un sujet d'une minute maximum, une chanson ça dure 3 minutes à la radio.
En fait on a plus beaucoup le temps de réfléchir. De réfléchir en soi c'est fatigant, ça demande un certain effort. C'est plus facile une fois qu'on a fourni notre quota de réflexion quotidien via le travail. Et les politiciens, on les entend quand même assez souvent dans ce laps de temps qui est formaté et qui est en fait réservé au repos du travailleur. Le politicien a une place indéniable. On l'entend pas quand on travaille dans notre travail au quotidien. On entend nos collègues. On va entendre parler de politique le soir. Ça commence au journal de 20h.
Qu'est-ce qu'on entend ? On n'entend pas tout, on entend un passage en particulier. Donc,
On entend des phrases choc.
Des phrases, voilà.
Des phrases choc qui touchent qui font sensation, mais on ne connaît rien sur le fond de la politique, sur les arcanes du...
Qui font sensation, donc on sait déjà qu'en prenant ces phrases, ça va faire sensation. Donc il y a un réfléchi, il y a une façon de présenter tout ça.
Ah, certainement, oui.
Qui manipule qui, là ? C'est les médias, c'est les politiques, c'est...
Moi, je pense que c'est un peu tout le monde, mais il y a des gens, les politiciens, je pense que c'est pas leur principal rôle de manipuler, c'est pas leur rôle. Mais ils vont y trouver de l'intérêt. Pour les médias, une entreprise privée, le but, ça va être de faire de l'argent. La manipulation n'est qu'un outil pour arriver à ses fins. Ça peut être compréhensible pour certains médias privés. Après, pour les politiciens, leur rôle est public. Un politicien, pour qu'il existe, ça va être principalement à travers les électeurs, de toucher la population, de convaincre. Là, on arrive à un point qui rejoint en fait l'objectif d'une entreprise privée, c'est de toucher un maximum de personnes.
C'est bon ? Merci.
Je pense que c'est un point qui devrait être transitoire ou simplement secondaire. Or, une fois que le politicien obtient sa légitimité, une fois que le politicien obtient sa légitimité par les urnes, après un travail de marketing épaulé par les spécialistes en la matière, que sont les, donc les médias privés, puisque ils ont des intérêts communs qui se rejoignent, une fois ce travail effectué et que le politicien obtient la légitimité de manière démocratique, il serait de sa responsabilité après de d'avoir un service public et non plus de se positionner dans une démarche de, à nouveau de marketing.
Mais tous ces hommes politiques, c'est vraiment des cons.
Ah oui?
Ces technocrates, c'est vraiment des cons. Et un peu plus cons. Je sais même pas pourquoi on imprime ça, c'est la même chose qu'hier. Quel tas de cons. Quel petit tas de pauvres petits cons. Mais un jour, on va se tirer, tu sais. Je sais pas où, aux Indes, on va rien. Ah mais je le ferai, mais un jour je le ferai, j'attraperai les valises et tout, le train et hop, on t'ira des lits. Ah oui.
Est-ce que moi aussi je suis à la hauteur?
À la hauteur de quoi?
Au point de vue érotique. Parce que l'épouse moderne est érotique.
L'épouse moderne est érotique. Ah bon?
Bon, ben moi faut que j'aille au bureau, allez.
Comme ça?
Pourquoi pas? On est bien comme ça, si les gens étaient pas aussi...
Nous sommes toujours dans un restaurant dans le 13e arrondissement en compagnie de Ludovic Carry, écrivain, et Henri de Bise, philosophe.
Je m'interroge par rapport à certains aspects de la société, à travers le comportement de mes semblables.
Ludovic Carry, écrivain, prenait tout à l'heure cette parole en disant qu'on prenait pas assez son temps effectivement pour développer, ne serait-ce que pour développer des faits d'actualité. Donc effectivement, le fait de réduire des actualités à quelques petites phrases ou des sujets d'une minute, on passe à côté de beaucoup de choses. Et quelles peut-être les conséquences, Ludovic, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton point de vue?
Vaste question.
T'as le temps de développer, t'as pas une minute, t'as beaucoup plus.
Je peux amener un élément de réponse.
Alors Henri, sociologue, va apporter un contenu.
Tout sujet en fait qu'on peut présenter par exemple aux nouvelles de 20h pourrait, ne serait-ce prendre n'importe quel sujet, pourrait nécessiter 2 heures de développement, je pense, pour se poser les questions de fond. Mais c'est un, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est une démarche qui demande un effort intellectuel qui n'est pas de l'intérêt du média privé.
Donc finalement, c'est un peu, on va dire, les publicités qui influent cette attitude des médias vis-à-vis de nous, auditeurs ou téléspectateurs.
Oui, en quelque sorte, oui, le financement étant principalement par les publicités demandent un maximum d'audience. C'est effectivement les publicités, mais ça c'est incontournable à partir du moment où le média est privé.
Ouais. Donc là on a les causes, quelles en sont les conséquences? Je reviens à ma question. Ludovic qui boit des verres d'eau sur verre d'eau et il nous écoute. Mais c'est bien, on a au moins un auditeur.
Le citoyen ne fait plus l'effort de réfléchir. Est complètement assisté et déresponsabilisé. On vit dans une société d'assisté où on fournit tout de manière prémâchée aux citoyens. Il n'y a aucune nécessité de changement puisque tout va bien comme ça. Tout marche très bien, on travaille, on regarde la télé. Il n'y a pas de réflexion sur est-ce qu'on vit bien ou pas bien. La question est dangereuse parce qu'elle remettrait en cause le système. Il y a une espèce de conservatisme abrutissant.
Et donc on en revient un petit peu à cette histoire de musique qui est envahissante, qui est aussi parfois abrutissante.
Oui, c'est une, je pense que c'est une espèce de dictature un peu, enfin qui empiète en tout cas sur ma liberté d'entendre ce que j'ai envie d'entendre ou de chanter ce que j'ai envie de chanter. Ça, voilà.
Ouais.
Vous passez tout le temps de la musique jazz et blues en fait.
Le soir. Ouais.
Ouais, c'est pour ça que vous avez écrit sur la vitrine, il y avait écrit blues jazz.
Ces trois jumeaux sans regard sultés ont pour destin la publicité. À l'espérance on est incité quand on les voit siffler leur goûter.
Voyez-vous, chers auditeurs, une lumière qui scintille au fond de votre esprit, au fond de votre cœur.
Henri de Bise, philosophe, sociologue et poète aussi ce soir. Hein.
Par exemple, le rêve. Le rêve est une, quelque chose de formidable, de très personnel, auquel on associe une connotation un peu péjorative dans notre société. Le rêve est dangereux pour la stabilité de la société. Parce que le rêve n'a pas de limites, n'a pas de frontières, n'a pas de règles, de lois. Le rêve peut être anarchique. Le rêve est complètement libre.
Le rêve au sens, au deuxième sens, non enfin.
Bah, au premier aussi, je pense. Tous les sens.
Ouais, et pour rebondir sur cette idée de rêve, enfin, sur le rêve, c'est quand même assez frappant. C'est Fellini qui disait, en fait, quand les films se sont vus interrompre par des publicités, ça existe depuis assez longtemps, que finalement, interrompre un film, c'était interrompre un rêve. Et il disait, vous imaginez être interrompu au bout d'une heure de rêve par une publicité pour le dentifrice. Voilà, il le disait de manière assez drôle. Et je pense que c'est une façon de, finalement, de voir que les films, les œuvres d'art sont des rêves, sont des choses qui nous font penser et rêver, et que les interrompre par de la pub, c'est encore nous aliéner, finalement. Parce que cette puissance d'évasion, elle est annihilée par la publicité sur la dernière bagnole, sur le dernier dentifrice, qui repointe le bout de son nez alors qu'on était précisément en train de rêver. Voilà.
Femmes, révoltez-vous! Vous n'êtes que des objets à qui l'on vend des choses, des voitures, des frigidaires, des machines à laver, des petits pois. Mes sœurs, vous êtes toutes conditionnées. Mais il y a plus grave, regardez autour de vous. Cette publicité insidieuse, hein, ces affiches érotiques sur les murs, ces cornues offertes. Mes sœurs, on se sert de votre sexualité pour vous vendre n'importe quoi. Depuis les maisons de la culture jusqu'au fromage frais. Alors, non à la civilisation phallique, non au sexe publicitaire, non au sexe commercial. Le phallisme ne passera pas. Le phallisme ne passera pas.
Brise.
Oh, mais fais peur.
C'est la centième cliente qui, depuis ce matin, a caressé de ses doigts gracieux.
Et erotissimo. Et c'est à elle que la maison remet le roll mops magique qu'elle a bien mérité. On applaudit les ménagères.
Elle est à toi, cette bouteille.
Mais j'en veux pas.
Là-bas, dans la loi en Afrique, ils ont travaillé dur, les Noirs, pour faire tomber les huiles.
Mais je veux pas le savoir.
Allons. Extra vierge, l'huile pure qui vous appartient.
Monsieur, je veux acheter l'huile pour
l'huile des ménages heureux.
C'est une cochonnerie, là.
C'est un don, c'est le roll mops magique. Là-bas, dans le cosmos, ils ne mangeaient que ça. Écoute, voilà, à huile moderne. Poisson moderne, érotissimo, l'huile qu'il vous faut,
il me faut rien
qu'il
tout,
vous
monsieur,
faut, elle
normal.
L'a dit, érotissimo, l'huile vierge,
vierge,
oh, mané, yoga, érotissimo, l'huile qu'il vous faut,
ah. j'en veux pas de votre huile.
Bon, je recommence.
Cinéma et publicité présente.
Elle est jeune. Elle est pure. Elle est excitante.
Oui.
L'huile érotissimo. Elle est jeune, elle est pure, elle est excitante et elle est vierge.
L'huile érotissimo est en vente dans tous les supermarkets.
Merci.
Voilà, on est arrivé au dessert avec une double double boule de glace. Deux boules de glace, pistache, chocolat, alcoolisé, avec des petites gaufrettes.
Chers auditeurs, voilà, je pense que c'est nous approchons bientôt de la fin. Ça a été un plaisir de partager jusqu'à maintenant
ce débat
avec Philippe et Ludovic.
Attention, parce que le silence à la radio, il faut expliquer aux auditeurs, oh, s'il y a 10 secondes de silence, Il y a l'émetteur qui se met en marche et qui lance de la musique. Alors, on a le droit de prendre notre temps, mais pas plus de 10 secondes, d'accord? Pendant la pause disque, Ludovic nous parlait des applaudissements. Oui, ça c'est, on peut réfléchir là-dessus, les applaudissements dans les émissions télé.
Je disais simplement que l'applaudissement est quelque chose de très étrange à la télévision, parce que c'est en fait une fabrication de l'unanimité cathodique qui doit inciter le spectateur à applaudir à son tour. C'est comme les poupées russes en fait, c'est un système de matrioshka approbatif où, puisque le public applaudit à l'intérieur de la télévision, le public doit être censé applaudir à l'extérieur de la télévision. Et ce qui est absurde, c'est que l'applaudissement va valoriser un bon mot, un mauvais mot, sans aucun principe de sélectivité. Alors que d'ordinaire, on applaudit parce qu'on approuve. D'ailleurs, applaudir veut dire donner son assentiment à ce qu'on juge plausible. Voilà. Or là, l'applaudissement va tout scander, un peu comme une virgule qui serait un peu métastasique, enfin proliférante, métastasique, puisque l'applaudissement interrompt toutes les 2 minutes, toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Et là aussi, il y a quelque chose de manipulateur, sachant que l'applaudissement est commandé par une lumière rouge sur les plateaux, généralement. Voilà.
C'est pour réveiller le téléspectateur qui oserait s'endormir. Hop, ah tiens, on applaudit, il s'est passé quelque chose, un événement. Voilà, donc Henri, qui nous disait à l'instant que notre émission allait vers la fin, aimerait terminer par un texte, alors bon.
Un passage du texte de Ludovic Harry.
Ludovic Harry, donc écrivain ici présent dans cette émission. Émission qui prend son temps aujourd'hui.
Pour amener en fait une petite touche exotique, je vous lirai bien un passage sur une promenade sur l'île de la Martinique. D'abord par la grève, puis quand, s'étant cassé la gueule dans l'eau, chaussure gauche trempée, par la route côtière, être revenu des Salines à Sainte-Anne, de nuit, une ample feuille de palmier dans une main, maniant parcimonieux sa lampe torche, de crainte qu'avant son arrivée elle soit sans lumière, un derrière le fait sursauter. Il comprend, c'est son palmier. Une langue d'étain sombre suscite sa méfiance. C'est une eau dormante. Il peuple l'obscur en la tapissant. Ohé, ohé, chanté d'abord, de sorte, croit-il, que les animaux ne sachent pas qu'il est seul homme au milieu d'eux. Puis balance du concept dans les topinières. Tiens, de grands raisonnements après tout, si jamais je dors là.
Pourquoi tu choisis cette partie du texte sous la vitesse de l'écrivain Ludovic Harry?
J'aime beaucoup ce passage. Déjà l'idée, on peut s'imaginer chacun sur une île étrangère, dans un pays, enfin sur une terre que l'on ne connaît pas, se retrouver un peu dans la jungle comme ça, dans la nuit, sans lumière, et puis entendre un bruit comme ça derrière nous, bah, qui nous lâche pas. On avance, mais il est toujours là, à la même distance, toujours le même, un peu. C'est inquiétant, on sait pas, ça peut être une bête. Peut-être quelque chose de hostile à notre promenade, mais. Et en fait, simplement, c'est lui qui trimbalait cet objet-là. C'est drôle. Et j'aime beaucoup l'image de la langue d'étain sombre qui suscite sa méfiance. Une langue d'étain sombre.
Pendant que Ludovic était parti s'absenter quelques instants, on a évoqué donc un extrait de son texte Sous la vitesse. En guise de conclusion, alors, pour cette émission, qui se voulait une émission qui prend son temps. Voilà. Bon, alors, en tout cas, merci Henri, sociologue, philosophe, poète, et d'autres. Et puis Ludovic Harry, écrivain, aux éditions Verticales.
J'avoue que j'ai des défauts. Des faux. Et des fossiles. Je suis la femme fossile. vous serez déçus. Et mon cœur, est un gadget. On s'en amuse, on en abuse et on le jette. Je suis la femme fossile.
Madame, il y a plus de lessive.
Après la nuit.
Après la nuit, une émission réalisée par Philippe dans un restaurant du 13e à Paris, avec la participation d'Henri, sociologue, Ludovic, écrivain. En illustration sonore, des extraits du film Erotissimo, avec notamment la chanson interprétée par Annie Girardot.
C'est la psychose des psychiatres. Oh, écoute, j'en ai rencontré un jour, il était complètement dingue. Tous les objets pour lui, c'était des objets érotiques. Oh, le mixeur, le batteur à œuf, et puis tout ça.
C'est vrai que c'est érotique, un fouet à œuf. Ah, pourquoi? Ça peut pas s'expliquer.
Elle est folle.
Elle est folle. Pour moi, l'érotisme, c'est... ou vice-versa.
Dans l'amour, les hommes, ils aiment le cinéma. Beaucoup de fossiles, un peu de flatterie, mon chéri, tu es merveilleux. Dis donc, t'as vu où on est arrivé? Oh, ne dis pas de mal du déshabillé. J'ai une cousine en province. Elle se colle en déshabillé. Son mari arrive, il la regarde et schlac, il bondit dessus et déchire le déshabillé.
Et alors?
Eh ben alors, il la viole.
Marie-Jo, docteur en sociaux, Marie-Jo. Marie-Jo,
hardcore
en sociaux, Marie-Jo, Marie-Jo.
En bas de chez elle, il y a une jolie plaque en bronze. Ex-jeune femme, douce et sensuelle,
recherche nouveau bronze.
Mais elle n'est pas seulement disco, elle est aussi un peu cuistot. Des milliers de mets carbonisés sortent souvent de ses fourneaux.
Heureusement, ses invités sont des gens très bien élevés. Lorsqu'ils avalent de travers,
en silence, ils deviennent ouverts.
Marie-Jo, t'inquiète pas, ton doctorat, tu l'auras. Marie-Jo.
Entre la thèse et la prothèse, elle a longtemps hésité. Entre la nécrose et la névrose, elle a du temps pour cogiter.
Mais elle angoisse car le temps passe, bientôt arrive la ménopause. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo n'a plus peur, elle ose.
De quête en enquête, elle se trouve des conquêtes. Concrétise et stigmatise
ce qui la déstabilise. Marie-Jo, t'inquiète pas, ton doctorat, tu l'auras, Marie-Jo. Mais sa libido est-elle en hasard de peau, que ceux qui la croisent
n'ont vraiment, vraiment pas de peau. Mais savez-vous qu'elle danse le tango et que ses yeux de braise font les gros machos au rage, au désespoir.
Il n'y a pas de faute.
rendu trop tard.
Franchement, elle est déçue. Et si seulement elle avait su, elle serait inscrite dans un cours de jiu-jitsu. Souvent ses amis sceptiques se demandent pourquoi elle aime tant la botanique.
Sans doute est-ce le botan qui l'excite. Marie-Jo.
De pédoncule en redoncule, elle rêve d'être une campanule. Et de décision en résolution, elle se pose toujours des questions.
Marie-Jo, t'inquiète pas, ton doctorat, tu l'auras.
HTR.
Le mix.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou zoubi zou. Le bruit des bisous. Sous le ciel du mois à doux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Ouh. Mais dites-moi, savez-vous ce que veut dire entre nous?
Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, mon Dieu que c'est doux.
Ce que veut dire zoubizou,
zoubizou,
ça veut dire je vous l'avoue. Mais oui, je n'aime que vous. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, mon Dieu que c'est doux. Des buissons du mois à deux, quand tu m'embrasses doucement dans le cou, car c'est curieux, tu vois, je l'avoue, ça me fait partout. Zoubi 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 zoubi, mon Dieu que c'est doux.
avec toi, il faudrait toujours jouer. Des lilas, et j'ai la passionnata sur les fortifications. Je n'ai pas de châteaux en Espagne, mes pays sont de cocagne, je travaille chez... Oh non!